Bonsoir à tous et bienvenue à l'espace Mendès France. Merci de votre venue. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison dont peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et nous sommes très heureux d'accueillir nos intervenants, sachant que un petit problème de parité quand même la tribune. Ce ne sera pas répété, tant pis. Et je voudrais, avant de présenter les intervenants, vous dire une ou deux choses sur l'espace Mendès France. Vous savez que l'espace Mendès France est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Et il peut avoir de loin, ou même de près d'ailleurs, l'image d'un établissement un peu sévère, un peu fermé, un peu centré sur ce qu'on appelle les sciences dures. Or, nous sommes au contraire très intéressés et travaillons beaucoup sur tout ce qu'on appelle les sciences molles, c'est-à-dire droit, géographie, économie, etc. Et c'est ce qui correspond à notre attention, à l'attention que nous portons énormément au territoire, puisque nous avons beaucoup de programmes d'accompagnement des collectivités territoriales dans les territoires. Et partant du principe que la culture scientifique et technique est un facteur de favorise l'innovation et développe la culture de l'innovation dans les territoires et chez ses habitants, évidemment chez les scolaires et dans les lycées et ailleurs, et que cette culture de l'innovation, lorsqu'elle se développe dans les territoires, est un facteur de développement économique et social relativement important. Alors nous contribuons à cela et nous avons beaucoup de programmes d'accompagnement des collectivités territoriales et un programme général qui s'appelle Sciences, Innovation et Territoire, qui est un peu la marque de cet intérêt pour les collectivités et pour la culture de l'innovation dans les territoires. Alors avant de lancer la table ronde, j'ai deux ou trois petites remarques. La première, elle a un caractère très personnel, c'est que je retrouve Monsieur Robert Savy, qui a été enseignant dans cette université, à la faculté de droit, à une époque que je ne nommerai pas, parce que j'étais moi-même son étudiant. Donc, j'aime mieux pas revenir sur un passé qui pourrait être un peu trop loin en arrière. Et à ce moment-là, c'était l'époque où l'université de Limoges n'existait pas encore. Elle allait prendre son envol quelques années après, dans les années 70 à peu près, quelque chose comme ça. De même que l'université de Tours. Et donc nous étions à Poitiers, la référence intellectuelle et universitaire de toute cette région. La Rochelle a été créée bien après. Donc tout ça pour dire que nous avons déjà des liens étroits avec les Limousins, et peut-être plus sans chercher à enfoncer un coin et à créer une zizanie, peut-être plus de liens finalement avec le Limousin qu'avec l'Aquitaine. Mais c'est l'histoire, c'est comme ça, et nous avons beaucoup de Limougeaux. Comment on dit les habitants du Limousin ? Les Limousins, tout simplement. Alors nous avons beaucoup de Limousins qui sont venus faire leurs études à Poitiers, et beaucoup de Poitevins qui sont allés enseigner à Limoges pendant de nombreuses années. Et donc l'université de Limoges, bien sûr, maintenant, a acquis son autonomie, et l'université de Poitiers a gardé la sienne encore pour un petit bout de temps. Alors, une deuxième remarque plus générale, c'est que le débat de ce soir se situe à un moment qui nous importe aussi, même ici, en matière de culture scientifique et technique et de culture de l'innovation dans les territoires. C'est que nous avons un peu l'impression, je ne sais pas ce qu'il en est pour la région Limousin, mais bon, les contacts qu'on peut avoir, soit en Aquitaine, soit en Limousin, nous font penser que nous allons perdre progressivement notre identité, nous allons être noyés dans un grand complexe régional de 12 départements, 3 régions, 12 départements, et bon, il faut travailler pour qu'on essaie de garder quand même une certaine identité et qu'on reste sur des possibilités de nous-mêmes participer au développement économique et social de nos territoires. Alors, la question est déjà, il y a déjà une question là qu'on pourra évoquer un peu plus tard, c'est est-ce que la fusion ou l'arrivée de la grande région va favoriser le développement économique et social des régions déjà existantes et de ces territoires? Est-ce que c'est un facteur favorable ou pas? Ma troisième remarque, et ça sera la dernière, bien entendu, c'est une remarque. J'ai enseigné l'économie régionale à la faculté là, avant Olivier, bien avant Olivier. Il y a une grande question qui s'est développée au cours du temps dans l'analyse et dans la recherche en économie régionale, c'est la question du territoire. Le territoire est une notion relativement récente en matière de recherche, enfin je parle un peu sous ton contrôle, en matière de recherche économique régionale. Avant, on parlait plus de région que de territoire. Et je pense que ça correspond à une espèce de fuite en avant devant la difficulté à définir ce qu'est une région. Alors on en parlait tout à l'heure avec Monsieur le Président Savy. Qu'est-ce qu'une région? Qu'est-ce qu'un territoire? Et là, on est vraiment au cœur d'un sujet, sur un sujet qui est très porteur de difficultés, de controverses, d'incertitudes sur ce que doit être une politique économique ou une politique sociale dans une région. Donc la notion de territoire est une notion basique, mais on ne sait pas trop ce à quoi il correspond finalement. Je force un peu le propos, mais alors si on sait à quoi elle correspond à un cadre administratif très souvent. Un département, c'est un territoire. Une région, c'est un territoire. Une commune, une communauté de communes, ça, ce sont des territoires qui sont parfaitement identifiés, mais de façon administrative. C'est-à-dire qu'il y a des frontières administratives. Mais bien souvent, et je parle sous le contrôle de géographes qui sont dans la salle, bien souvent, les limites des territoires géographiques sont incertaines, sont difficiles à connaître et à définir précisément. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, Olivier, je ne sais pas si tu enseignes toujours, si tu fais référence dans tes enseignements toujours à Monsieur Claude Ponsard. Tu en parles encore? Attends, il est des années 70 quand même. Donc, Claude Ponsard, qui était professeur mathématicien et économiste à la faculté de Dijon, a développé pendant de nombreuses années, dans de nombreux articles, le concept de région floue. Hein, je parle sous ton contrôle. Le concept de région floue, qui était une reprise de l'ensemble flou des géographes. En géographie, Yves, ça existe, les ensembles flous. Bon, donc tout ça pour dire que, en matière de territoire et d'action régionale et de politique régionale, on a toujours navigué entre différentes approches et de façon un peu délicate et souvent contradictoire. Donc, vous allez avoir messieurs, à parler des territoires, mais j'espère que ce sera dans un cadre à peu près fixe et qu'on pourra s'y retrouver à propos de cette réforme territoriale. Alors, je vais donc, après avoir dit que le territoire était un objet économique non identifié, je vais donc demander au premier intervenant, ou à Jean-Luc, peut-être tu veux dire quelques mots sur l'ASER et sur les repères qui sont les tiens?
Merci. Donc, je suis Jean-Luc Gibou. Je travaille à l'ASER depuis un petit bout de temps et par ailleurs, je suis aquitain, effectivement, mais natif et originaire de notre région, notamment de la Charente-Maritime, je tiens à le dire. Donc, l'ASER est une association qui associe des personnalités d'origines diverses, notamment des anciens responsables syndicaux de confédérations différentes, CGT, CFDT, Force ouvrière, UNSA, etc. Et d'autre part, différents dirigeants d'entreprise qui ont quand même comme but de faire progresser le progrès économique et social, et notamment qui a aussi comme but de faire organiser des débats autour de quand même tout ce qui concerne l'Europe, mais aussi de différents débats du type politique industrielle, et notamment les territoires aujourd'hui. Joël Decaillon en dira deux mots tout à l'heure, au début de son intervention. Et nous avons effectivement effectué un travail autour des territoires. Il y a un dossier qui est à l'entrée. Mais un petit peu pour introduire ce débat, je dirais que réforme territoriale et économie des territoires, ça, on peut le situer autour de quatre questions. Tout d'abord, la première question, c'est pourquoi la réforme ? En sachant que la régionalisation moderne dans un pays comme le nôtre a débuté autour des années 50 avec la création de ce qu'on appelait le Centre national des économies régionales et de la productivité. C'est l'époque après de la création des comités d'expansion qui a pu exister dans un certain nombre de régions, qui existaient notamment sous la houlette de Pierre Mendès France et puis de Jacques Chaban-Delmas qui était son ministre à l'époque. Et puis des créations dans les années 60, au début des années 60, ont été créées des circonscriptions d'action régionale qui ont permis la mise en place de plans régionaux. 72, création des établissements publics régionaux, hein, les conseils régionaux, les premiers conseils régionaux dans une certaine configuration. Et je dirais le mouvement de décentralisation de 82, l'acte 1, parachève un petit peu l'existence de la région en tant que collectivité publique de plein exercice. Et c'est en 81, effectivement, avec l'élection au suffrage universel, 86, avec l'élection des conseils régionaux, au suffrage universel, que le conseil régional devient une collectivité importante dans le paysage institutionnel de notre pays. En fait, la réforme qui a été lancée en mai 2014, à travers le débat sur la réforme territoriale, on ne peut pas l'arrêter à des contours géographiques ou à des économies réalisées. Elle doit être en fait la clé d'une ambition institutionnelle autre pour notre pays et la structurer dans le cadre des mutations qui sont en cours. Voilà un petit peu comment on peut cerner le pourquoi et le comment de la réforme, mais je crois que le débat va enrichir un petit peu ces éléments. La deuxième clé, c'est autour des territoires, hein. On peut regarder que les territoires sont quand même aujourd'hui arc-bouté quand même sur trois lieux qui deviennent stratégiques, la région, les intercommunalités et puis l'État. Ce qui fait que la notion de territoire est quand même renvoyée à la fois à des institutions et à des espaces qui sont régis un peu par toutes sortes de découpages. Mais toutefois, quand même, à travers les territoires, si on veut essayer de se projeter, il y a deux questions qui restent posées quand même. C'est les territoires, ils sont quand même largement liés à la capacité des acteurs qui y sont présents et de ce qu'ils en font en fait, et de notamment comme espace d'action. Et la deuxième aussi concerne les différentes fractures territoriales, ça on le verra un peu dans la discussion, que les diverses politiques mises en place, les diverses politiques publiques n'ont pas endiguées. La troisième clé, elle est un peu autour de la démocratie sociale et puis de la place des acteurs sociaux. Ça, c'est ce qu'on avait un peu travaillé et ce que Lazer a un peu travaillé là-dessus, mais qui quand même concerne toutes les régions. C'est en posant en fait la question de l'organisation démocratique des territoires. Ne doit-on pas réfléchir au renforcement de la puissance publique, mais aussi à la place des citoyens et à leur rôle dans ces changements. C'est une question tout à fait importante, au-delà des institutions, bon, par exemple, quid des Césaires, mais on peut aussi se poser la question de la nature un petit peu du rôle des organisations syndicales et patronales qui ont un rôle essentiel pour questionner le contenu du développement territorial et, d'une certaine manière, les associer à ces réponses, à apporter aux problèmes que soulèvent ces transformations est une nécessité pour l'avenir. Dans le même temps, le dialogue social territorial émerge un petit peu. Il faut lui donner un peu de contenu. Il faut donner un peu des compétences aux territoires quelles compétences vont avoir les territoires pour pouvoir enclencher ce dialogue social territorial au niveau des bassins d'emploi, bien qu'il existe dans un certain nombre de cas pour répondre à ce besoin, notamment par exemple en matière d'emploi, de formation professionnelle, ou de sécurisation des parcours professionnels. Et puis, dernière clé, qui est quand même pas négligeable, loin s'en faut, c'est celle du développement économique et puis des mutations productives. Quand on sait que la loi quand même a quand même attribué sans ambiguïté les compétences, la compétence juridique du développement économique aux régions, hein, on est plus que le chef de file. La question qu'on peut se poser, c'est celle de quels moyens supplémentaires disposeront les régions pour l'exercice de ses responsabilités, mais aussi des moyens d'intervention et de quel type d'intervention elles se doteront pour pouvoir répondre à un certain nombre de grands défis de la période. Donc là-dessus, par rapport à ça, il y a quand même à regarder les perspectives à prendre en compte pour le développement de l'industrie, du développement productif. Et c'est ces transformations qui induisent à la fois de nouveaux outils, de nouveaux moyens et puis de nouvelles structures d'action. Donc, se situant un petit peu en perspective d'avenir, la discussion peut-être aussi d'aujourd'hui de regarder quelles en sont les contraintes, comment on peut les surmonter et aussi quels peuvent en être les acteurs qui seront décisifs dans cette affaire.
Merci Jean-Luc. Donc, on présentera nos intervenants au fur et à mesure. Nous leur avons demandé une intervention de 10 minutes, un quart d'heure, et vous aurez droit à la fin de chaque intervention à deux questions. Bon, alors il n'y en aura peut-être pas, mais... Monsieur Robert Savy d'abord. Monsieur Robert Savy est professeur de droit. Il a été président de la région Limousin. Pendant de nombreuses années, il a une carrière universitaire et politique très longue, très riche et très brillante. Et nous sommes très fiers de lui passer la parole pour la réforme territoriale, Monsieur le Président.
Merci. Merci. Je suis très heureux de me retrouver à Poitiers. J'ai eu 20 ans à Poitiers, ça ne s'oublie pas complètement. J'ai été étudiant à Poitiers, j'ai enseigné à Poitiers. Je suis heureux de retrouver dans la salle au moins deux anciens étudiants, dont le doyen Dominique Breillat, que j'aperçois là-bas, et notre meneur de jeu de ce soir. Réforme territoriale, elle se veut ambitieuse. Et une réforme territoriale, son objet, c'est de toucher à la distribution des pouvoirs dans les divers territoires nationaux. Et à travers les diverses lois qui ont été votées en 2014 et qui sont en train d'être votées en 2015, on a touché à plein de choses. On a touché à plein de choses, me semble-t-il, sans se poser auparavant un certain nombre de questions de fond qui ne me paraissent pas complètement indifférentes au sujet. Est-ce qu'on veut plus ou moins de décentralisation ? Est-ce qu'on veut plus ou moins de démocratie locale, c'est-à-dire d'un système où la décision ne se prend pas trop loin du citoyen ? Est-ce qu'on veut des territoires qui sont en concurrence les uns avec les autres, ou est-ce qu'on veut des territoires qui sont organisés chacun à leur échelle, la commune, la région, l'État, en assurant une cohésion des différentes composantes de cet ensemble. Et puis enfin, est-ce qu'on est capable de choisir pour l'avenir entre les pouvoirs que j'appelle installés, l'État, le département, la commune, ou est-ce qu'on fait plutôt le choix des pouvoirs émergents, l'Europe, la région, l'intercommunalité ? Les discours sont plus clairs que les mesures prises. Alors, quand j'observe ce qui vient de se passer, je me dis... En 10 minutes, on ne peut pas évoquer 1000 problèmes. Deux points qui me paraissent peut-être plus importants que les autres. Le premier, c'est que selon moi, cette réforme met la cohésion territoriale en danger. Et ma deuxième remarque, c'est que la démocratie locale, comment dire, pour être aimable, est en panne. Première considération, la cohésion territoriale en danger. C'est quoi la cohésion territoriale ? Elle repose sur l'idée que si les territoires ont tendance à être en concurrence les uns avec les autres, ce n'est bon pour personne. La cohésion territoriale qui est consacrée par les traités communautaires, elle veut dire qu'en tout lieu d'un territoire, les gens qui y habitent pourront accéder aux services publics ou privés dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Alors, elle suppose un maillage de l'ensemble du territoire par des petites villes, des moyennes villes, des grandes villes, où les citoyens trouveront les services dont ils ont besoin. Il me semble que la réforme, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, fait le choix de la concurrence des territoires plutôt que le choix de la cohésion entre les territoires. Trois illustrations rapides. Première illustration, les métropoles. Plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000. La loi en prévoit une bonne douzaine. Elles auront des compétences très fortes, des compétences de plein droit, qui touchent à une multitude de domaines. Et quand on regarde sur la carte de France où elles sont localisées, elles font le tour de l'hexagone, si la formule a un sens, et il y a un énorme vide central dont je ne suis pas sûr qu'il soit un point d'appui pour une meilleure cohésion territoriale. Il y a ensuite, et on peut en parler à Poitiers comme à Limoges, les capitales régionales déclassées. Elles vont perdre les services publics et privés supérieurs. Dans l'administration territoriale, les directeurs iront à Bordeaux et les chefs de bureau resteront à Poitiers ou à Limoges. Perte d'emploi, directe ou indirecte, perte d'attractivité, conséquences sur le marché du logement, éloignement du pouvoir de décision, est-ce qu'on progresse vers la cohésion ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Et ça commence. La presse locale nous dit chaque jour que les fonctionnaires des directions régionales de l'État se posent des questions. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre de mon assureur vie qui me disait « Cher monsieur, vous aviez l'habitude de nous rencontrer à Limoges, boulevard Victor Hugo. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à partir du 1er juillet prochain, ça se passera cours de l'intendance à Bordeaux. » C'est un... Enfin, on est prévenu. Et puis, dernier exemple, les métropoles, les chefs-lieux de régions déclassées, les nouveaux cantons. Les nouveaux cantons, parce qu'on y est allé de bon cœur, là, hein, avec un critère qui en vaut d'autres quand il s'agit de voter, c'est l'équilibre des populations, mais sans se préoccuper en aucune manière des affinités des territoires rassemblés. Alors, on peut espérer que le nouveau chef-lieu de canton sera renforcé. En revanche, les autres, ceux qui ne seront plus chef-lieu de canton, on peut penser qu'ils perdront un peu de leur capacité à mailler finement le petit territoire dans lequel ils étaient. Et j'ajoute, pour en finir sur la cohésion territoriale, que je n'aperçois dans la loi aucune mesure sur la péréquation des ressources entre les territoires. Deuxième élément de mon propos, la démocratie locale en panne. La démocratie locale, c'est quoi ? C'est un territoire identifié. Identifié, c'est-à-dire capable de se reconnaître, ayant son identité. Des compétences locales bien définies et des autorités élues pour les respecter. Alors, tout n'est pas à rejeter dans la réforme. On peut approuver une tentative pour clarifier les compétences. Il faut savoir qui fait quoi pour que le moment venu, l'électeur puisse sanctionner les politiques conduites. Mais j'ai quand même des interrogations sur la manière dont ces compétences se sont définies, sur les relations entre la métropole et la région qui l'entoure. On sent bien les conflits possibles. On ne sent pas très bien l'identification de celui qui décidera. La loi nous dit que les métropoles seront compétentes pour les équipements d'intérêt métropolitain. En voilà une bonne idée. Quelle différence y a-t-il entre un équipement d'intérêt métropolitain et un équipement d'intérêt régional, à Bordeaux par exemple, ou à Nantes? Ça va être difficile de délimiter la frontière. Et puis, on définit les compétences, mais on prévoit des systèmes de délégation. Si bien que je parie qu'à la fin des fins, les choses seront encore plus confuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une tentative intéressante de mise en ordre de la coopération intercommunale, à une condition toutefois, c'est que les préoccupations de contrôle politique du territoire ne passent pas avant les solidarités internes au territoire dans la délimitation des frontières. Ce sera probablement le cas quelquefois, toujours je ne saurais l'affirmer. En revanche, ça c'était mon côté approbation de la réforme, comme vous l'avez remarqué. J'en viens maintenant à une approche un peu plus critique. On peut nourrir des inquiétudes sur plusieurs points. On va créer des territoires plus vastes, indiscutablement, mais sans identité. C'est vrai pour les régions. Et pour les régions, on va casser un processus de construction d'une vision régionale que l'on essayait d'élaborer depuis un demi-siècle maintenant et qui, d'Aubusson à Bayonne, aura peut-être du mal à se trouver. Et c'est vrai aussi pour certains cantons qui sont tout surpris de se retrouver dans la configuration d'aujourd'hui. Et puis, on crée des nouveaux pouvoirs à la légitimité démocratique un peu affaiblie. C'est vrai pour les métropoles. C'est un établissement public de coopération intercommunale. Et il va être plus fort, administré comme il l'est, que la région élue au suffrage universel. Peut-être y a-t-il là matière à interrogation. Et puis, c'est vrai aussi pour tous les établissements publics de coopération intercommunale. Le Sénat ne veut pas d'une élection au suffrage universel des responsables. C'est une ligne rouge infranchissable pour le Sénat, qui est là d'ailleurs dans son rôle traditionnel. En conclusion, deux remarques. D'abord, un paradoxe. Le Premier ministre voulait la disparition du département à l'horizon 2021. Il me semble que c'est plutôt le contraire qu'il nous prépare. Le département sort renforcé comme collectivité territoriale et renforcé comme échelon de l'État dans les régions déclassées où des fonctionnaires départementaux vont recueillir certaines des attributions des anciennes directions régionales. Le département reste la matrice de la vie politique locale. Il reste le cadre d'organisation des partis, le cadre dans lequel se recrute le personnel politique local. Le département va bien, ne vous inquiétez surtout pas pour lui. Et puis, ma dernière remarque, c'est un constat résigné. Le Sénat continue son rôle de conservateur des archaïsmes de notre organisation territoriale. Un Sénat est nécessaire, indiscutablement. Je n'ai pas toujours dit cela. Mais je suis devenu partisan du Sénat après que j'ai été député pendant 5 ans, parce qu'après avoir vu comment l'Assemblée nationale travaillait, j'ai été convaincu qu'il fallait une autre chambre ensuite pour revenir sur ce qui avait été fait à l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse toucher au cœur des dysfonctionnements de l'administration territoriale tant que le Sénat sera ce qu'il est et se comportera comme il se comporte. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Savy. Est-ce qu'il y a une question ou deux questions à Monsieur Savy suite à cette intervention roborative? Question? Bien sûr, Olivier.
Non, juste sur le premier point, peut-être j'y reviendrai dans mon intervention, enfin tout à fait d'accord sur cette montée de la concurrence territoriale. J'ai plus une question, enfin sur le discours identité régionale. C'est-à-dire, moi, j'ai pas, enfin, c'est une vraie question, quoi. Est-ce qu'il y a une identité régionale dans la région Poitou-Charentes? Alors là, Limousin, Aquitaine, je sais pas. J'ai pas ce sentiment-là que y ait cette légende, se sentent pas appartenir à une région. Il me semble, enfin, c'était pour vous interroger là-dessus, quoi, sur cette question-là.
Alors, il y a eu peut-être une vingtaine d'années des batteries d'enquête régulières de l'Observatoire interrégional du politique qui mesuraient le sentiment d'identité régionale. Et de fait, il est très variable d'une région à l'autre. En tête des classements, on trouvait régulièrement l'Alsace et la Bretagne. Le Limousin était troisième ou quatrième. La région centre était un peu plus loin, ce qui explique qu'elle ne soit pas touchée du tout par la réforme en cours.
Une autre question ? Monsieur ?
J'avais une question sur la taille des régions. Si vous pouvez vous présenter. Oui. Monsieur Bruni, je suis secrétaire général de la CFDT du Limousin. Bon, j'ai une question sur la taille des régions. On nous dit toujours, enfin les partisans de la réforme nous disent toujours que la petite taille du Limousin a été pénalisante peut-être pour mener des projets. Je pense que vous avez démontré le contraire. Comment ça se fait qu'on nous oppose toujours ça et qu'on dise il faut des grands ensembles et sans grands ensembles, on ne peut rien faire?
Parce qu'un argument quantitatif, c'est facile à comprendre. Mais si je regarde moi ce qui se passe dans les pays étrangers, en Espagne, la communauté autonome de la Rioja se porte très bien. Elle doit faire 400 000 habitants. Ça dépend de ce qu'on demande aux régions. Si demain, on voulait confier la délivrance des diplômes aujourd'hui nationaux aux régions, je ne plaiderais pas pour un diplôme limousin. Ça me paraîtrait déraisonnable. S'il s'agit en revanche de faire ce qu'on demande aux régions de faire aujourd'hui, je n'ai moi jamais ressenti la taille du Limousin comme un obstacle. J'ai le sentiment qu'on n'a pas fait beaucoup plus mal que les autres pour les lycées, pour la formation professionnelle, pour l'aide aux entreprises. Il me semble même que du fait de notre taille, nous avons pu conduire des actions qui n'auraient pas été imaginables dans un ensemble trop vaste. Par exemple, on a mis en place maintenant, il y a une petite dizaine d'années, un service public régional du numérique. C'est-à-dire que les grandes collectivités locales ont apporté à un syndicat mixte leurs compétences en la matière, ce qui permettra de définir, de desservir en haut débit et demain très haut débit l'ensemble du territoire régional et pas seulement les bassins de population qui auraient pu être desservis dans la logique du marché qui dominait le domaine. Voilà donc un moment où on a pu faire quelque chose, me semble-t-il, sans que notre taille soit un handicap. Et au contraire, elle a été, me semble-t-il, un atout.
Autre question ? Une seule. Excuse-moi, Dominique, madame.
Patricia Blondel, je suis enseignante. J'ai une remarque à faire. Vous avez cité, Monsieur Gibou, les trois territoires, région, intercommunalité, l'État. Et quid des pays comme territoires de proximité qui sont quand même existants et qui ont un rôle, à mon sens. Vous les avez complètement squeezés. Hein. Et justement, ma question, moi, elle est par rapport au pays également, au sens pays loi de la loi 99.
Monsieur Savy, vous voulez répondre peut-être ?
Oui. J'ai, moi, été intéressé, alors que j'étais président de la région, par la construction des pays. Et il me semblait qu'il y avait là une manière intéressante de prendre la question de l'organisation des territoires. Il y a deux manières de définir un territoire. C'est en partant de la réalité de ce qu'elle est, des relations qui se tissent entre les différents éléments qui le composent, ou il y a l'autre manière qui consiste à charger un préfet ou un président de la République de définir les frontières comme ça. Il me semble que les pays procédaient de cette démarche qui partait de la base, de la réalité vécue par les gens. Et je regrette un peu qu'on se soit un peu éloigné de cette manière de prendre les choses.
Pierre, au lieu de prendre des photos, si tu peux passer le micro à Dominique.
Je crois que c'était terminé. Oui, c'est pas parce que j'ai été formé par le président Savy que, en réalité, je me trouve en total accord avec ce que le président Savy a dit, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, ces remarques qui ont été faites. Et tout à l'heure, je voulais ajouter quelque chose quand on a parlé de la taille des régions. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? On veut des régions à l'échelle européenne, qu'on m'en donne la définition. Car la définition implicite, c'est toujours la même, c'est-à-dire, voyez ce qui se passe en Allemagne. Or, en réalité, quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est vrai, il y a de très grandes régions comme la Rhénanie du Nord-Westphalie ou la Bavière, mais il y a la Sarre, il y a Brême, il y a Hambourg, et qui vivent finalement très bien. Ce que je voudrais ajouter à cet égard, c'est que ça a été sans doute, mais pour moi, dans toute cette réforme territoriale, il y a d'abord une erreur monumentale dans la méthode qui a été suivie, et notamment quand on voit les différentes commissions, et Dieu sait s'il y en a eu auparavant, il y a une chose que l'on a toujours oubliée, c'est d'aller voir comment les choses se passaient à l'étranger. Et ça aurait peut-être évité de dire des stupidités quand on nous disait « il faut des très grandes régions ». Actuellement, en Italie, on est en train de supprimer les provinces, mais pas les régions. Et les régions, on les laisse dans le nombre qu'elles sont. Et je ferai juste une dernière remarque. Aux États-Unis, le quart des États, c'est quand même pas si mal, est moins peuplé que le Poitou-Charentes.
Merci Dominique. Joël de Caillon, je vais vous présenter, je lis, hein, parce que j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans le texte que j'ai. Vous êtes vice-président de l'ASER, vous avez été secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats, issu des rangs de la Fédération CGT des cheminots. Et vous avez été responsable Europe et international de votre confédération pendant une dizaine d'années. Il y a quelque chose qui manque ou...
Non, c'est bien.
Donc, je vous passe la parole.
Merci de cette initiative. La Confédération européenne des syndicats, c'est pour m'inscrire dans le débat sur l'homogénéisation ou l'uniformisation des territoires. On regroupe près de 45 organisations... de 45 pays, 85 organisations et représentait à peu près 45 millions de syndiqués. Et un des miracles de cette confédération, c'est que l'ensemble des syndicats y sont, tout le monde français, pas, sauf Solidaire. Et le deuxième miracle, c'est qu'ils arrivent à parler ensemble et à travailler ensemble depuis des années sans que c'est eu de difficultés, ce qui prouve que dans un ensemble aussi complexe, on arrive et on peut travailler ensemble si on le veut, et avec d'autres syndicats qui ont des points de vue très différents. Ceci étant dit, on m'a demandé de travailler sur la démocratie sociale et si la réforme des territoires allait la renforcer. Alors, je dirais, travailler sur la démocratie sociale, c'est un vaste sujet, puisque elle a pour objet, elle aussi, d'assurer une cohésion, une solidarité, tout en maintenant sans doute des situations très diverses. Et de répondre à une question assez fondamentale qui est l'égalité de traitement des salariés et de limiter la concurrence dans les rapports sociaux. C'est théoriquement l'objet même des conventions collectives de branche quand elles ont été instaurées. Donc, est-ce que cette réforme peut la renforcer ? Pour ma part, je pense qu'on peut y arriver, mais ça sera un travail extrêmement important, et j'y viendrai dans un deuxième temps. Je dirais que ce qui me surprend le plus dans le débat présent, et ça rejoint une partie du débat qui vient d'être entamé, c'est la tendance à la volonté de l'homogénéisation et de l'uniformisation. Alors je dis, elle n'est pas une tendance idéologique, elle est le fait de la mondialisation, elle est le fait que l'aspect de l'espace, la notion d'espace et de temps ont pris une importance totalement différente, et donc elles ont tendance, ces deux notions-là, à générer de l'uniformisation pour répondre à leurs besoins qui sont sur un espace qui est beaucoup plus large. Donc il y a une volonté qui est très large. Je, Bon, je vous fais grâce de tout. Je pense que d'autres pourront intervenir sur ces débats. Mais il est évident que les modifications de la communication ont changé ces notions-là. Et elles ont, ces notions-là, donné des lieux de pouvoir économique en particulier qui se sont largement modifiés dans les années qui viennent de s'écouler. Et ce n'est pas sans effet, notamment sur la crise politique, sur la crise de représentation dans les pays européens. Donc, et c'est aussi pas sans effet sur les difficultés des syndicats dans bon nombre de pays européens. Je dirais que ces tendances à l'homogénéisation et l'uniformisation est quand même vécue essentiellement par le prisme financier et économique. Elle n'est pas vécue comme une tendance à la démocratie. Et ça, je pense que c'est une des difficultés. Ça va très loin. Lazare avait produit un cahier il y a quelque temps sur l'accord transatlantique qui s'appelait « La déconstruction de l'Europe ». Vous avez parlé de territoire, mais l'Europe aussi est un territoire, et notamment dans la formation des normes tant en matière de santé publique, d'environnementale, etc. Et le principal point de difficulté, c'est qui formera les normes demain. Or, les normes sont un élément essentiel à l'organisation de la démocratie, de l'organisation des rapports économiques et sociaux. Je n'insiste pas trop parce que c'est... Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, et là je rejoins complètement, c'est que l'Europe avait des territoires très hétérogènes et que leur organisation, quand on prend bon nombre de pays, est liée à des éléments d'identité culturelle très fortes et que personne ne le renouche. Si je prends un pays comme la Belgique, le territoire qui est représenté, qui est un tout petit territoire, mais qui est le territoire de la Belgique allemande, et personne, ni les Wallons, ni les Flamands, le remettent en cause. C'est-à-dire, à aucun moment, ça leur viendrait à l'idée, dans leur débat, qui est un débat extrêmement violent entre eux, sur l'avenir de la Belgique, de remettre en cause cette identité. Donc, la référence culturelle est très importante. En Allemagne, c'est très clair. En Italie aussi, mais même dans les pays scandinaves. C'est-à-dire que cette vision d'un territoire simplement... Alors, c'est une vision... historique de la France, hein, à travers, je fais grâce de l'histoire de France et de son découpage, mais cette vision historique assez de vouloir considérer que les territoires, parce qu'ils vont être massifiés, vont être plus performants, est une vision qui mériterait d'être approfondie. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il y a très peu d'études comparatives. On parle souvent des autres pays, mais il y a très peu d'études comparatives sur ces régions. Quand on prend les pays d'Europe centrale qui ont adhéré à l'Europe, les attachements régionaux dans ces régions-là sont extrêmement profonds et se passent sur des unités relativement petites. C'est-à-dire, ça a été plutôt une volonté à la sortie de la chute du mur de Berlin de renforcer ces identités-là. Donc, je pense que là, c'est quand même une vision très, très, très. Alors, qui correspond à la mondialisation nous oblige à avoir des effets de massification pour répondre à la mondialisation et à la concurrence. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout même que ça soit pertinent dans la mondialisation, et j'y reviendrai un peu plus tard. Je dirais, le deuxième élément qui est un véritable problème sur la démocratie sociale et son avenir, c'est que je pense que les territoires devront redevenir pertinents, c'est que la démocratie sociale, à quelques niveaux que ce soit aujourd'hui, l'essentiel de la négociation et le patronat, qui soit au niveau du Bureau international du travail, qui soit au niveau européen, Business Europe, qui soit au niveau français, et tout, considère que le lieu de négociation, c'est l'entreprise. Et que le seul lieu de négociation, c'est l'entreprise, avec une affiliation très forte entre groupes multinationaux pour un certain nombre de structures syndicales, etc. Or, cette affiliation n'est pas une affiliation qui implique nécessairement des solidarités et des cohésions. Elle n'a pas... La négociation, si elle ne prend pas dans les années qui viennent un caractère beaucoup plus territorial, notamment parce que les entreprises sont... Aujourd'hui, je ne vais pas vous développer, mais il y a un chercheur français qui appelait les grandes entreprises sont sans domicile fixe. Elles sont SDF. Il y a aussi ce qu'on appelle les entreprises légaux. Donc, qui se construit, et on a les entreprises en réseau. Et après, on a les petites entreprises. Ceci dit, la configuration et l'organisation économique financière permet d'avoir un éclatement des entreprises. Donc, l'organisation de la négociation collective devient un véritable enjeu. On avait à un moment donné, je le disais quand on dînait, on avait nous essayer de retravailler, avant que je quitte la CES, on avait travaillé sur l'anticipation des restructurations. Et on avait vu que pour maintenir des savoir-faire, et on le voit bien aujourd'hui, même si je n'ai pas un avis, ce n'est pas l'objet du débat sur la filière nucléaire, mais on voit bien que le maintien des savoir-faire dans cette filière-là est essentiel. Aujourd'hui, la perte des savoir-faire dans cette filière-là fait que ça sera... Et donc le maintien des savoir-faire passait aussi par une vision territoriale. On s'était beaucoup inspiré à l'ASER de l'étude de l'économie des entreprises dans les vallées, notamment dans la région Rhône-Alpes, qui permettait de créer des conditions de coopération et de négociation différentes. On a besoin de territoires pour développer non seulement des dynamiques économiques, mais aussi des dynamiques sociales et de maintien des savoir-faire et de partage des savoir-faire et des éléments d'apprentissage. Donc la notion de territoire me paraît être extrêmement pertinente si on accepte que les négociations sociales ne se fassent pas dans une définition étroite de l'entreprise. Il y a des débats, par exemple, c'est si vrai que, par exemple, dans ce qu'on appelle alors, les accords cadres internationaux, c'est peut-être très loin, mais il vient d'en avoir un nouveau négocié à Renault. Aujourd'hui, on négocie la sous-traitance dans un accord cadre international. C'est-à-dire qu'on est obligé de regarder les entreprises sous-traitantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire on négocie un accord de bonne conduite de Renault au niveau international. Et on est obligé de regarder dans quelles conditions. C'est-à-dire que, donc là, on voit bien que la notion d'entreprise n'est pas une notion qui est simple à gérer en termes de démocratie sociale. C'est le premier élément. Ensuite, je pense que malgré tout sur l'emploi, les bassins d'emploi, cette connaissance des territoires sur les savoir-faire et le partage collectif est une ressource extrêmement importante. Donc on a de ce point de vue-là à négocier entre partenaires et à évaluer les choses. C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que les syndicats sont... Dans une période de crise, les éléments de repli sont plutôt importants. Être dans une entreprise, ce n'est pas forcément facile. S'occuper des travailleurs qui ne sont pas dans l'entreprise, par exemple, s'occuper de l'intérim, on voit bien, hein, c'est quelque chose d'extrême. Vous savez, dans la construction automobile, en France, mais en Allemagne, c'est la même chose, c'est 30% des salariés qui sont intérimaires. Avant que les syndicats allemands, ils l'ont pris dernièrement, la décision de négocier pour les intérimaires dans les entreprises, ça a duré très longtemps. Et dans la construction, dans le bâtiment, c'est 30% des travailleurs qui sont intérimaires. Donc la précarité n'est pas dans les lieux, mais elle existe dans l'entreprise même, au sein même du collectif de travail. Donc comment, face à ce collectif de travail, aujourd'hui, les territoires. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une réponse démocratique, à condition, c'est mon autre point, qu'on ait une vision de l'entreprise qui est un élément dynamique, non seulement économique, mais territorial, avec l'ensemble des éléments. Je dirais que l'entreprise doit être un lieu ouvert en termes de sa vision sur les problèmes de santé publique, de sécurité, d'environnement, et qu'à partir de là, la responsabilité est différente. Que ce n'est pas simplement le jeu des deux acteurs, syndicat et patronal, que les acteurs et l'ensemble des acteurs sont d'une autre organisation. Je sais que ce n'est pas un discours courant pour les syndicalistes, mais c'est un discours que j'ai longtemps pratiqué à Bruxelles, avec d'autres, notamment avec le Bureau européen de l'environnement et la plateforme sociale. Je pense que la responsabilité sur l'organisation économique est aujourd'hui beaucoup plus sociétale qu'elle n'a été il y a quelques années, et que donc l'organisation de la négociation sociale doit s'inspirer et tenir compte de cet élément. Et puisque sur les politiques de l'emploi, donc on peut avoir les échelons, les CESR, alors je ne sais pas s'ils joueront un grand rôle, mais est-ce qu'un CESR plus large pourra faire mieux que les CESR actuels ? Je ne suis pas un passionné des CESR, je vous le dis tout de suite. Donc, je pense que c'est un échelon intéressant à condition qu'il y ait une véritable cohérence avec les bassins d'emploi. C'est-à-dire qu'il ait une véritable cohérence avec les lieux. S'il est dans une certaine abstraction, et je dirais que malgré tout, ce qui est quand même très fort dans ce domaine de l'organisation sociale, d'une négociation sociale, c'est qu'il y a une certaine notabilité, j'appelle ça notabilité, je pourrais appeler ça corporatiste, qui fait que les choses ne sont pas faciles à transcender. Et donc, je pense qu'il peut être l'objet à condition d'avoir dans chacun des partenaires la capacité. Vous savez, la réforme des chambres patronales est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, même pour le patronat. Donc c'est la notabilité, les notabilités locales ne sont pas faciles à vaincre pour essayer de répondre autrement aux questions. Donc et je dirais que c'est valable pour les syndicats aussi. Donc il n'y a pas de... C'est un champ d'articulation qui est très important. Et je pense que les territoires sont, en termes d'économique, si on accepte l'idée que demain, l'usage les points forts des économies se feront dans d'autres conditions, notamment sur l'usage des matières premières, sur une gestion économique intelligente, sur une gestion d'économie circulaire, sur d'autres moyens, donc sur une autonomie dans la gestion des ressources, aussi bien énergétiques que de matières premières différentes, on peut penser que là, il y a une réappropriation des territoires qui est extrêmement grande, notamment parce qu'elle sera plus démocratique, qu'elle répondra plus à des besoins et qu'elle peut répondre à une nouvelle façon de... Ces débats-là ne sont pas forcément des débats qui sont en dehors des débats généraux, mais ils sont des débats qui impliquent une vision beaucoup plus ouverte de l'entreprise. Ce n'est pas facile pour les syndicats, hein, notamment en période de crise. Les éléments de repli sont plus importants que les éléments d'ouverture. C'est inévitable parce que la situation le voit. Je dirais que le patronat a plutôt le beau jeu en ce moment, hein, pour imposer au nom de l'emploi un certain nombre de thèses. Mais il y a un terrain. Oui, il y a un terrain de reconquête. Il y a un terrain de solidarité et de cohésion. Alors, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut des éléments d'égalité de traitement. Donc, l'État national a beaucoup d'importance. Il faut aussi que l'Europe joue un rôle très important. Il est évident que sur des problèmes comme le problème de l'environnement, du changement climatique, des normes de sécurité alimentaire, de santé publique, avoir un ensemble européen puissant est intéressant dans un cadre d'un débat mondial sur le respect d'un certain nombre de conditions. Donc, on voit bien qu'il y a des niveaux différents. Mais je pense que sur le domaine local, les partenaires peuvent avoir une approche beaucoup plus constructive que c'est aujourd'hui. Le risque, c'est quand même de rendre les travailleurs en concurrence. Et ça, c'est cette concurrence exacerbée, puisqu'on est quand même dans un monde où les salariés est quand même un élément dominant de l'organisation économique mondiale. Pour terminer, il y a eu une session du BIT qui s'est terminée d'ailleurs vendredi dernier, du Bureau international du travail. Les rapports du BIT cette année, c'est quand même que on est à plus de la moitié des travailleurs qui n'ont pas de protection sociale et presque les trois quarts qui n'ont pas de contrat de travail dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un développement exponentiel du nombre de travailleurs, or l'ensemble de ces travailleurs n'ont pas de couverture. Donc les enjeux de solidarité et de cohésion, je pense que ce sera extrêmement difficile si on ne redéfinit pas territorialement. Et je crois beaucoup à ce que les partenaires sociaux, notamment le patronat, acceptent ce qu'on appelle les droits de troisième génération, c'est-à-dire que l'entreprise est une entreprise ouverte qui est dans un territoire, qui a des responsabilités sociales, qui a des responsabilités environnementales, qui a des responsabilités de santé publique, qu'on doit articuler avec les services publics. Donc c'est des problèmes de redistribution, il y a des problèmes de fiscalité, et que si on ne veut pas avoir un débat trop difficile dans les mois qui viennent, que les territoires, c'est aussi des services publics et qu'aujourd'hui, le débat sur la fonction, la réorganisation des territoires risque d'être extrêmement handicapant si c'est simplement une addition et une soustraction ou des fins de queue de comète, comme on dit, pour gérer le statut des fonctionnaires, on aura des difficultés sociales majeures. Mais le territoire l'entreprise ne peut pas être que la réponse. La réduction du dialogue, la négociation sociale à l'entreprise est aujourd'hui la principale difficulté. J'ai participé à plusieurs conférences à Bruxelles, c'est dans tous les pays. Hein. La première chose qu'a fait le gouvernement grec, le gouvernement irlandais, le gouvernement portugais, les gouvernements espagnols après la crise, c'est de supprimer les conventions de branche. Ça a été la première chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Grèce, vous négociez collectivement dans une entreprise avec 5 salariés. Il suffit d'avoir 5 salariés pour faire un accord d'entreprise. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans une organisation de la solidarité. Donc, je pense que la réactivation de ce débat sur démocratie et territoire est une réactivation essentielle.
Merci beaucoup, Monsieur de Crayon. Une question à Monsieur de Crayon.
Oui, Pierre Lebrun.
Monsieur.
Bonjour. Vous dites qu'il faut reterritorialiser les relations, globalement, donc entre l'entreprise, quelque part, et l'ensemble des conventions qui la régissent, et le salariat. Jusqu'où vous pensez qu'il faut aller dans ce sens-là? Par exemple, est-ce qu'il faut que les conventions collectives s'appliquent au niveau de la région? Est-ce qu'il faut que le contrat de travail soit propre à la région? Est-ce qu'il faut que le montant des charges payées par les entreprises soit propre à la région, etc.? Alors, on me dit de me présenter en deux mots. Je suis maître de conférence en économie à l'université de Poitiers.
Oui, c'est pas, si j'ai dit ça, c'est que je me suis fait mal comprendre. Non, mon problème, c'est d'organiser pour qu'il y ait une représentation sociale qui soit assez claire. Je vais prendre l'exemple que je prends presque tout le temps. Si vous prenez une grande surface, aujourd'hui, vous avez un magasin Leader et vous avez des franchisés tout autour. Il faut qu'on puisse au minimum négocier pour que les travailleurs qui sont dans les franchisés puissent savoir comment s'organisent les horaires, puisqu'ils dépendent complètement de la grande surface, mais qu'ils aient aussi des lieux des toilettes, des lieux des vestiaires, des choses tout à fait élémentaires qui leur permettent d'avoir une vie et qu'ils aient une vie à peu près, qu'ils ne soient pas complètement comme le... Ça peut être un artisan, le franchisé, hein, ce n'est pas forcément un salarié, mais dans cette organisation... Et on a la même chose dans les entreprises. Vous avez des interventions sur un lieu d'entreprise dont on n'a absolument aucune cohérence d'organisation du travail, aucune cohérence des horaires et après aucune cohérence du respect. C'était typique dans le chantier de Saint-Nazaire. Le chantier de Saint-Nazaire, vous avez autant de travailleurs intérimaires que de travailleurs d'Alstom. Et les conditions de vie, c'est que une partie des travailleurs, il y a eu beaucoup d'émissions, une partie des conditions de vie des travailleurs, c'est qu'ils, notamment, qui venaient des pays d'Europe centrale, c'est qu'ils vivaient dans des conteneurs. Ceci dit, la responsabilité était patronale, mais la responsabilité est aussi syndicale, parce que comment les travailleurs d'Alstom, c'est-à-dire comment on peut... C'est-à-dire qu'on a des besoins de solidarité et de cohésion qui sont aussi inter-travailleurs, pour parler le langage le plus cru. Mais ça ne répond pas aux éléments de solidarité. Par exemple, avoir un salaire minimum en France est un élément important. Ceci dit, est-ce que c'est démodé? Non, puisque les Allemands viennent de le faire et que Obama en parle sérieusement pour les États-Unis. Donc les éléments de cohésion et de solidarité ne sont pas dépendants de l'organisation des rapports sociaux. Le problème des rapports sociaux, c'est qu'on est sur des entreprises éclatées. On est aujourd'hui sur des systèmes d'entreprises très éclatés. Alors avec... D'un côté, une capacité, notamment dans les zones, ce que j'appellerais les zones à haute matière grise, à avoir un développement considérable des services pour générer des choses. Et après, des services qui se développent de manière aussi considérable. Mais avec, en France, on a gardé, par exemple, le fait d'avoir un SMIC fait que l'activité des services est payée à un prix qui est sans doute pas satisfaisant, mais ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, où l'essentiel de l'emploi allemand, c'est sur des services très dégradés. Ceci dit, c'est aussi le cas dans d'autres pays. Hein. Si on va dans d'autres pays, c'est très, très comparable, cet élément-là. Donc, les éléments de cohésion et d'une formation, ce n'est pas forcément régionaliser, c'est donner les moyens d'avoir une représentation des salariés sur un territoire qui fasse que les intérêts des entreprises soient en même temps préservés. Alors, c'est un petit peu dans la loi Rebsamen avec... le niveau régional sur les TPE, c'est déjà une première tentative d'organiser pour regarder. Mais on a besoin de cohérence. Ceci dit, ça paraît miraculeux, mais c'était quand même, quand à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on a avancé les conventions collectives, c'était quand même cette réponse. C'était de dire, il faut limiter la concurrence entre travailleurs. C'était pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu une déclaration qui s'appelle la déclaration de Philadelphie du BIT en disant que le travail n'était pas une marchandise. C'est-à-dire de dire, il faut que, puisqu'on est dans un rapport de subordination des salariés, comment on peut répondre à cette question-là. Et ma question n'est pas de dire, il faut tout décentraliser. Ma question est de dire, puisqu'il y a des systèmes de retraite, il y a une protection sociale. Enfin, il y a des éléments de cohésion qui sont extrêmement importants dans un pays comme la France. Ma question est de dire, c'est comment... sur une région, mais non seulement en termes d'organisation du travail, mais aussi en termes de savoir-faire, de partage des savoir-faire et d'examen des dynamiques locales. Parce que comme les entreprises sont divisées, la connaissance des savoir-faire doit être approfondie d'une autre façon. Autrement, chacun, la mise en commun de ces savoir-faire ne répond pas forcément à une dynamique économique et sociale. Donc, je ne me place pas sur le terrain de la concurrence, je me place sur le terrain d'une représentation et d'une négociation qui soit efficace économiquement et socialement.
Merci. On va donner tout de suite la parole à monsieur Guillaume Duval, qui est rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, après, je crois, avoir passé de nombreuses années dans l'industrie et dans même les multinationales. Donc, monsieur Duval.
Bonjour et d'abord, merci à l'ASER, merci à l'Espace Mendès France de nous avoir associés à ce débat sur un sujet qui nous occupe effectivement pas mal, la question des territoires et de l'économie. La question a déjà été abordée à différentes reprises, mais j'avais prévu en particulier de centrer mon propos sur la comparaison France-Allemagne, sur laquelle j'ai un peu bossé, parce que notamment dans cette expérience que vous rappeliez, j'ai travaillé dans l'industrie allemande et ça m'a donné quelques idées sur les raisons pour lesquelles ça marche chez eux et ça ne marche pas chez nous à ce niveau-là. Et parmi ces questions, il y a effectivement, évidemment, l'organisation territoriale qui sert beaucoup de modèle, de référence dans ces débats français. Alors, ça l'a été dit, sur la dimension de la taille, c'est entièrement du pipeau. Il y a plusieurs länders allemands qui sont de toute petite taille. Je crois que, mais là, on sera, je pense, autour de cette table à peu près tous d'accord. Enfin, je ne sais pas ce qu'Olivier en dira après, mais jusqu'à maintenant, on était tous d'accord pour dire qu'en gros, ce qui compte plus que la taille pour une organisation territoriale, c'est à la fois l'histoire, c'est les liens effectifs qui existent au sein de ce territoire. Sur le plan économique, c'est la perception qu'en ont les habitants d'une collectivité de destin, d'histoire, de futur, etc., etc. Et qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire que ce qui se dessine en France soit très prometteur, a priori, sur tous ces plans. Effectivement, mais au-delà de la taille et des questions de taille, il y a derrière des questions qui sont beaucoup plus lourdes. Ce qu'il faut bien mesurer, il faut bien mesurer les spécificités du territoire français, notamment par rapport au territoire allemand, pour comprendre pourquoi ça marche différemment en tout cas. La France, c'est un pays qui est deux fois moins densément peuplé que l'Allemagne. Il y a deux fois plus d'habitants au kilomètre carré en Allemagne. Alors, le Royaume-Uni est encore un petit peu plus densément peuplé que l'Allemagne, mais c'est un des grands pays, en tout cas les plus densément peuplés parmi les pays développés. Ça veut dire que sur les 16 länders allemands, il y en a deux seulement qui ont moins de 100 habitants au kilomètre carré. Donc c'est le Brandebourg aux alentours de Berlin, c'est là d'où vient Angela, et c'est le Mecklenburg-Vorpommern tout à fait au nord, c'est des Länder de l'Est, c'est pas étonnant, c'est parce qu'ils ont connu une hémorragie démographique avant même la chute du mur. Mais tous les autres ont plus de 100 habitants au kilomètre carré. En France, sur les 22 régions métropolitaines, pour l'instant il y en a 13, une majorité qui ont moins de 100 habitants au kilomètre carré. Ça se traduit aussi par une densité de villes qui n'a strictement rien à voir. Donc en Allemagne, il y a 80 villes de plus de 100 000 habitants. En France, il y en a 40, 41. En Allemagne, il y a 14 villes de plus de 500 000 habitants. En France, il y en a 4. Tout ça se traduit par le fait qu'existe sur l'ensemble du territoire une masse critique suffisante à la fois de capital financier, mais aussi de capital culturel, mais aussi de sous-traitants, mais aussi d'entreprises, etc., pour qu'on puisse investir et développer des activités très diverses un peu partout. Sans avoir des kilomètres à faire pour trouver un banquier ou pour trouver un sous-traitant, etc., etc. C'est un territoire qui est très, très différent. Ça se traduit notamment aussi par une répartition des richesses, la production de richesses qui est très différente. La région la plus riche, c'est celle qui est autour de Francfort. Francfort, c'est la city de l'Allemagne, c'est là où il y a la BCE, la Deutsche Bank, etc. La région autour de Francfort est la plus riche en Allemagne. L'écart entre la plus riche et la plus pauvre, c'est à nouveau le Brandebourg. C'est 1,8 pour le PIB par habitant en Allemagne. En France, entre l'Île-de-France et la Picardie, qui est la région la plus pauvre pour l'instant, c'est 2,1. Mais simplement, la Hesse, donc la région de Francfort,
le PIB par habitant, c'est juste 1,2 fois la moyenne de l'ensemble de l'Allemagne. Le PIB par habitant de l'Île-de-France, c'est 1,6 fois la moyenne de la France. Donc il y a des écarts beaucoup plus importants. Alors, est-ce que c'est lié à l'organisation territoriale allemande ? Non, pas vraiment. C'est lié d'abord à une histoire qui est très longue. Nous, il y a 600 ans de centralisation et 40 ans de décentralisation. Eux, ils ont eu au contraire 1000 ans de décentralisation et juste un petit 40 ans de tentative de centralisation entre 1870 et 1914. C'est une histoire qui est très longue et qui est très différente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation territoriale allemande sert de référence et est très différente. Elle est aussi très différente de ce qui se prépare aujourd'hui, parce qu'une des principales différences qu'on n'a pas mises en œuvre pour l'instant, c'est que les Länder allemands, ils sont maîtres chez eux, c'est-à-dire qu'ils édictent des règles qui s'appliquent pour l'ensemble des échelons sous-jacents dans leur région. Il y a même des constitutions par Land. Alors ça ne s'applique pas à tout, il y a évidemment des règles fédérales importantes dans différents domaines, mais il y a une hiérarchie dans les organisations territoriales. Alors, au-delà de ces questions d'organisation territoriale, sur lesquelles je n'avais pas prévu de développer beaucoup, se pose en gros une question plus lourde en France, qui est celle des dépenses publiques et leur impact sur l'économie. La logique de la réforme qui est engagée et parallèlement des politiques publiques qui sont menées avec le pacte de responsabilité et les choses comme ça, c'est de dire en gros... on a des métropoles, elles sont capables de s'insérer dans la mondialisation, mais elles sont handicapées dans leur capacité à s'insérer dans la mondialisation par tout le fric qu'il faut dépenser pour le désert français. C'est un peu ça la logique qui est à la fois de dégager des métropoles et de leur donner des pouvoirs, etc. C'est quand même un des éléments essentiels de la réforme qui est engagée. Et parallèlement de la volonté d'abaisser à la fois le coût du travail et les dépenses publiques de manière significative. Dans les dépenses publiques françaises, ce n'est pas forcément les dépenses de l'État en tant que telles ou les transferts aux collectivités locales qui assurent aujourd'hui la cohésion territoriale du pays et le fait que les écarts de revenus. J'ai parlé tout à l'heure des écarts de PIB par habitant, de production, mais les écarts de revenus sont relativement faibles en France. Ils sont plutôt parmi les plus faibles au niveau des pays développés. Mais c'est l'effet de transferts, non seulement entre les riches et les pauvres, mais de transferts territoriaux des dépenses publiques élevées qu'on a, qui aboutit à ce résultat-là. Donc l'analyse qui est faite aujourd'hui, je pense, et qui est mise en œuvre à travers la réforme territoriale, c'est de dire, c'est bien gentil tout ça, mais c'est ça qui nous plombe sur le plan économique, et c'est ça qu'il faut changer. Dans ces dépenses publiques, ce qui a cet effet d'homogénéisation du territoire, c'est pas vraiment... Alors, ça fait beaucoup discuter dans les collectivités locales, et c'est important, mais c'est pas vraiment les transferts de l'État vers les collectivités locales. Ça reste relativement marginal. L'essentiel de cet effet de cohésion, il provient de la protection sociale. C'est les transferts qui sont organisés par la protection sociale, par l'assurance maladie, par les systèmes de retraite, par l'assurance chômage, etc., qui font qu'on a un territoire qui est relativement homogène au niveau des revenus, alors qu'il est très déséquilibré, beaucoup plus déséquilibré que l'Allemagne en particulier au niveau de la production. Donc la question qui se pose, c'est si on va dans ce sens, est-ce que en réduisant la protection sociale, en gros, c'est ça, est-ce qu'on aurait des entreprises plus performantes à l'échelle internationale ? C'est ça qui est pensé aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi des métropoles plus performantes à l'échelle internationale si elles n'avaient pas à nourrir et à entretenir tout l'arrière-pays ? En gros, c'est ça. Donc c'est un débat... qui est malgré tout sérieux. Mais c'est vrai que si on va dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là qu'on va, On y va à la limite plus qu'avec la droite au pouvoir, hein, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Hein. Si on va dans ce sens-là, ça risque d'être très dangereux pour la cohésion territoriale du pays. On observe déjà, quand on regarde le vote Front National, on voit bien que ça épouse des contours régionaux de régions qui sont en particulière difficulté, etc., etc. Donc ça va poser des problèmes de cohésion territoriale, sociale, politique du pays. Est-ce que c'est vrai que les métropoles, je dirais toutes seules, s'en sortiraient mieux que si elles devaient continuer à entretenir un arrière-pays, à y maintenir des services publics, des transferts sociaux, etc. etc. Je ne suis pas sûr que ce discours tienne vraiment la route. Je pense qu'elles profitent aussi pour leur attractivité de l'existence de cet arrière-pays, même à des niveaux très anecdotiques du style multinational. Ils viennent parce que, enfin, les cadres viennent parce que dans l'arrière-pays c'est sympa, c'est joli, c'est entretenu, etc. Et d'autre part, c'est évident que si on ne maintient pas le niveau aujourd'hui de cohésion territoriale avec tout ce que ça implique de services publics, de présence et de transfert, on handicape aussi très sérieusement une activité économique qui est malgré tout un des atouts majeurs que peut avoir la France, que devrait avoir la France dans une dimension plus importante, qui est le tourisme. C'est vrai que les gens aiment bien, les Néerlandais, les Anglais aiment bien venir dans le Limousin, etc. Mais c'est parce que non seulement c'est joli, mais il y a quand même aussi des routes, du téléphone, des infrastructures, etc. etc. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour maintenir ce genre de choses, on risque d'avoir aussi de très gros problèmes sur ce plan-là. Donc c'est un débat qui est sérieux. Enfin, je veux dire, la question de savoir si on est capable encore d'entretenir un pays qui est aussi peu dense, où il y a aussi peu d'activités dans autant de surface, de se payer ce luxe, entre guillemets, c'est un peu ça la question qui est derrière. Mais si on ne le fait pas, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte mieux globalement en tant que pays. Bon, il y a des coins qui s'en sortiront nettement moins bien, évidemment, mais qu'au niveau de l'ensemble du pays, on s'en sorte mieux et qu'en particulier, on soit plus performant au niveau de la compétitivité internationale des entreprises, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Duval. Une question, parce qu'on a appris un peu, je vous préviens tout de suite, il va falloir quitter les lieux à 22h30. Donc... il faut que nous soyons rigoureux dans le timing. Une question peut-être à M. Duval ? Oui, Olivier ?
Oui, Olivier Coussy, maître de conférence en gestion. Alors justement, je dis gestion, c'est un peu fait exprès. C'est quelque chose qui apparaît pas forcément dans le propos des interlocuteurs pour l'instant. C'est la philosophie gestionnaire de tout ça. Et le mot, c'est le New Public Management, en fait. C'est-à-dire, c'est la volonté pour l'État d'instaurer un mode de management public qui s'inspire des modes anglo-saxons et d'appliquer des modes de management semi-privé à l'échelle des États. Et c'est ce qu'il y a derrière cette réforme territoriale au bout du compte. L'État n'étant pas capable de faire à l'échelon central la mise en place effective de ces philosophies gestionnaires pour qu'elles impactent directement sur les territoires et qu'on fasse les gains d'économie et de dépenses publiques, bah, il crée un dispositif de gestion qui sont les big régions, avec une philosophie et un substrat technique beaucoup plus important. Et puis derrière, il espère qu'effectivement, il va pouvoir faire ses économies. Le bug, c'est que derrière, il y a un peu de politique, de féodalité républicaine, et puis qu'on laisse la compétence, la clause de compétence générale des départements, qui fait que, comme le président Savy le dit, bah, au bout du compte, c'est les départements qui sortent vainqueurs de cette réforme, et puis des régions et une cohérence territoriale, une cohésion territoriale qui risque d'exploser en vol.
Qui veut réagir, M. Duval ? Oui, oui, bien sûr. Oui,
oui, enfin, y a certainement la volonté d'avoir un new public management, mais enfin, je ne pense pas que ce soit en soi quelque chose qui soit problématique. Hein. Nous, on est des assez grands défenseurs de l'idée qu'il faut des dépenses publiques importantes, que c'est nécessaire dans des sociétés complexes comme les nôtres d'avoir beaucoup d'interventions publiques et que c'est pas forcément c'est pas opposé à une économie privée dynamique, mais que c'est plutôt au contraire une condition pour avoir une politique, enfin une économie marchande dynamique. Mais ce qui est évident, c'est que ça n'a de sens que si cette action publique est efficace et mise en place de manière efficiente. Et là, je dois dire que, surtout, enfin, si on compare avec l'Allemagne, mais aussi avec les pays scandinaves, on n'est pas spontanément dans une tradition très, très forte. Enfin, on est dans une tradition où l'appareil d'État s'est construit, je dirais, en dehors et au-dessus de la société. Il a été construit par les rois de France pour maîtriser leurs féodaux et ensuite renforcé par Napoléon Bonaparte dans une logique assez militaire. Et pour la dernière étape, renforcée à nouveau par un autre général dans une logique assez, assez verticale. Donc on n'est pas spontanément dans une logique où l'appareil d'État est à l'écoute des citoyens et de ce qui ne va pas pour changer les choses et améliorer son action. Hein. Si vous voulez, il y a un économiste américain que j'aime beaucoup et qui n'a jamais eu de prix Nobel, mais c'est très bien parce que c'est plutôt un mauvais signe, c'est Hirschman, qui disait qu'il y a deux principaux moyens d'interaction entre les hommes, c'est entre les humains, pardon, la voice et l'exit. Donc l'exit, c'est quand vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Donc ça, c'est le mode de régulation par excellence du marché, de la concurrence, etc. Et la voice, c'est quand vous n'êtes pas content, vous l'ouvrez pour, jusqu'à ce que le gars d'en face change et améliore son offre. Et ça, c'est forcément le mode d'interaction dominant, enfin qui doit être dominant dans l'action publique, parce que sur un territoire donné, à moins de partir, on n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul État, on ne va pas en construire deux. Donc c'est forcément le mode d'interaction dominant dans l'action publique. Malheureusement, ce n'est pas un mode d'action qui est très développé jusqu'ici au niveau de l'État français.
Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Olivier Bouba-Houlga. Tout le monde ici connaît Olivier Bouba-Houlga, professeur de sciences économiques, doyen de la faculté des sciences économiques, auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces questions-là, en particulier l'économie d'innovation, l'analyse du développement économique local. Olivier.
Okay, merci. Donc il faut que je sois efficace.
Efficient.
Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, peut-être... Juste rappeler deux, trois choses, compléter peut-être sur un ou deux points. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout au départ, c'est-à-dire qu'on a quand même une évolution forte dans ce que fait la puissance publique sur les territoires, une évolution d'une logique quand même d'aménagement du territoire à une évolution qui consiste à dire aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut mettre en concurrence les territoires. Enfin voilà, c'est la concurrence exacerbée des hommes, des entreprises, des territoires. Donc ça, c'est quand même un changement très très radical. Qui a eu lieu et qui est ultra structurant et qui était très transversal à l'échiquier politique quand même, quoi. Donc il y a cette vraie problématique là, quoi. On met en concurrence tous les territoires et donc chaque territoire se sent en concurrence avec les autres, quoi. Poitiers est en concurrence avec Limoges, avec Bordeaux, avec ceci, etc. Enfin bon, ça pose quand même un peu souci. À partir de ça, puisqu'on est tous en concurrence, l'enjeu c'est d'identifier les ressorts pour être plus compétitifs que les autres. Et là, deuxième point, c'est des choses aussi qui ont déjà été dites. De ce que j'observe, moi, à travers mes travaux et de travaux d'autres chercheurs, c'est qu'on a un peu des leitmotifs, des espèces d'allant de soi, quoi. C'est, voilà. On a compris ce qu'il fallait pour être compétitif. Il faut une grande taille. Donc ça, c'est l'argument de la taille critique. Qu'on retrouve pour les régions. Hein, on nous dit, alors encore une fois, effectivement, pas mal de gens l'ont expliqué, la comparaison région française-allemande, ça n'a pas de sens. À la limite, la faiblesse des régions françaises, ce n'est pas leur taille géographique, hein, c'est leur budget. Hein. C'est, voilà, la spécificité des régions françaises, c'est qu'elles ont des tout petits budgets. Hein. Donc on a cet argument, il nous faudrait des grandes régions pour être plus compétitifs, mais j'ai envie de dire, on nous a sorti la même chose avant pour les universités. Hein. Il faut fusionner les universités parce qu'on n'est pas visible et il faut monter dans le classement de Shanghai et quand on aura des grandes universités, on va être... voilà. Je pense aussi qu'en très transversal en France, on a aussi ce culte... Alors là aussi, il y a des gros effets de mode qui sont assez rigolos. Mais on a ce culte, il nous faut aussi des grandes entreprises, des champions nationaux. Il y a toujours cette idée-là, hein, je ne sais pas quelles sont les racines de cet allant de soi, mais je pense que ça dépasse très largement le cadre de la réforme territoriale. Alors ça bouge parce que Souvent, je rappelle quand même que, années 90, la DATAR avait mis en place une politique des systèmes productifs locaux. C'était par imitation de ce qui se faisait en Italie avec les districts industriels, parce qu'à l'époque, c'était small is beautiful. Hein. Voilà, donc c'était voilà, le modèle, c'était la petite taille. Après, on a, et à l'époque, hein, l'Allemagne, c'était l'homme malade de l'Europe. Enfin, voilà, c'était pas regardé du tout. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici une dizaine d'années, il y ait voilà, une espèce de balancier où on revienne en se disant bah, finalement, on a du mal et on n'arrive plus à gérer ces grands ensembles. Peut-être faudrait-il faire demi-tour. Hein. Donc, il y a un peu cet allant de soi. Il y en a un autre aussi qui procède, enfin, qui dérive aussi de cette mise en concurrence entre les territoires, c'est la question de l'attractivité. Voilà. Il faut des grandes régions. Et puis, le leitmotiv, c'est il faut des régions attractives. Donc, il faut attirer des entreprises, il faut attirer des personnes. Alors, quand on dit attirer des personnes, c'est plutôt des gens qualifiés des pays développés. Hein, ce n'est pas forcément des migrants des pays pauvres. Ça fait moins rêver. Et donc on met en place beaucoup de politiques publiques hein, pour renforcer ce pouvoir d'attractivité des territoires. Et moi, de ce que j'ai pu voir des travaux de recherche que je mène ou que mènent d'autres chercheurs, c'est que si on essaie de passer à l'épreuve des faits ces allants de soi, ça marche pas. Sur la taille critique, on a des régions de grande taille qui marchent bien, qui sont performantes, et d'autres qui sont beaucoup moins performantes. Et on a des territoires de beaucoup plus petite taille qui sont très très performants, qui s'en sortent très très bien. Donc là, l'argument de la taille critique, ça ne marche pas. Sur l'attractivité des personnes et des entreprises, idem, on raisonne un peu trop comme si les gens étaient hyper mobiles. Et en fait, ce que montrent toutes les études, c'est que les gens ne sont pas si mobiles que ça. Ils s'inscrivent dans des trajectoires qui sont très liées à leurs relations sociales. Croire que c'est en proposant un cadre ultra plein d'aménités que tout d'un coup plein de gens vont venir s'installer à Poitiers pour y développer des affaires, etc. Ça ne marche pas comme ça dans les faits. Les gens se déplacent peu. Quand ils se déplacent, c'est souvent parce qu'ils ont du réseau social qu'ils savent qu'ils vont pouvoir mobiliser à l'endroit où ils vont, ou c'est parce que simplement on leur propose un emploi. Hein, mais donc ce culte de l'attractivité, pareil, ça ne marche pas. Hein. Autre idée qui me semble aussi, peut-être, enfin, qui a déjà aussi été rappelée, mais ça me semble assez structurant dans le débat français, c'est qu'on sent toujours une espèce d'ambiguïté entre une volonté pour l'État central de se dire la décentralisation, c'est pas mal, donner du pouvoir au territoire, peut-être ça va marcher, et puis en même temps une grande peur de ça. Alors pour les universités, je pense que Yves, tu pourras témoigner, c'est typiquement ça. Il faut rendre les universités autonomes. Mais de Paris, on se dit, oulala, si on leur donne un peu trop d'autonomie, sûrement ça ne va pas être bien ce qu'ils vont faire. Donc on leur donne de l'autonomie, mais on les tient quand même, quoi, hein, et puis on fait attention à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et moi, j'ai le sentiment qu'on retrouve ça aussi aujourd'hui et un peu toujours, quoi, cette ambiguïté entre un État central qui sait que c'est peut-être plus pertinent d'être plus proche du citoyen, de développer des choses plus locales, et puis en même temps... On est dans un pays ultra jacobin, quoi. Et puis, l'État central sur Paris, on a peur de des choses forcément moins intelligentes qui seront faites en province que sur Paris, quoi. Donc ça me semble aussi, pour comprendre un peu ce qui, comment évoluent les choses et les discours, etc. Ça me semble quelque chose de très très important. Après. Par rapport à cette obsession du modèle, moi, le discours que je porte, ça consiste à dire faut arrêter avec cette obsession-là. Je vous le disais, c'était le small is beautiful avec les petits districts industriels italiens des années 90. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne le modèle, les Länder allemands, etc., les universités américaines. Ça ne marche pas. Et ce qu'on a du mal à faire en France, me semble-t-il, c'est à prendre en compte la diversité des territoires et l'importance des contextes territoriaux. Les problèmes à traiter sur Poitiers ne sont pas les mêmes que les problèmes à traiter sur Bordeaux, sur Paris, en Franche-Comté, etc. Alors là, sur la période récente, on est amené à mener pas mal de travaux, par exemple, sur la Franche-Comté. Franche-Comté, Lorraine, qui sont des territoires que je trouve très, très passionnants, qui sont sous-étudiés. Quand on les étudie en France en général, et moi le premier, dans les premiers travaux que je menais, hein, je collecte de la donnée française, je regarde un peu comment évolue l'emploi, comment évoluent les revenus, etc. Sur l'emploi, ça va plutôt pas bien. Sauf que ce qu'on rate complètement quand on fait ce type de travail, y compris les chercheurs, encore une fois, c'est tous les effets transfrontaliers.
En fait, l'emploi en Franche-Comté et en Lorraine, si on regarde que les emplois qui sont localisés en France, la dynamique est mauvaise. Sauf que la Franche-Comté et la Lorraine vivent de plus en plus et beaucoup, alors pour la Lorraine, notamment du Luxembourg, et puis pour la Franche-Comté, de l'Allemagne. Et que ça veut dire qu'on a beaucoup d'habitants de Franche-Comté qui bossent en Suisse, qui ont des, et là je vous invite à regarder, qui ont des revenus, le revenu par tête, hein, Franche-Comté ça va, hein, ça va bien, simplement l'emploi n'est pas en Franche-Comté, il est à côté. En Lorraine, l'emploi est beaucoup au Luxembourg. On rate totalement ces mécanismes-là, alors que c'est des vrais enjeux à traiter sur ces territoires-là. Je veux dire, le problème en Franche-Comté, c'est pas l'absence de métropole. Hein. En Lorraine, idem. Hein. Le problème essentiel, c'est pas mince, Nancy, Metz, est-ce que ça va être une métropole ou pas. Le problème, c'est comment on gère des énormes effets de congestion. Hein, il faut savoir, enfin, petit chiffre, en Lorraine, c'est 900 000 actifs. Tous les matins, il y en a 90 000 qui vont bosser à l'étranger. Donc Metz, Luxembourg, ça va vite quand c'est pas congestionné. Le matin, c'est plus de 2 heures de route, etc. Ça fait aussi des gens qui veulent habiter près de la frontière luxembourgeoise. Donc ça fait monter le prix du foncier sur Thionville. Hein, et c'est, voilà. Donc là, alors je prends ce petit exemple, mais c'est vrai sur chacun des territoires. À chaque fois, on s'aperçoit, quand on regarde un peu les choses, et c'est quand même pas très compliqué de regarder un peu attentivement les contextes territoriaux et les problématiques à traiter, à chaque fois, on s'aperçoit qu'on a des problématiques spécifiques à traiter. Mais en France, on est toujours dans l'obsession, mais c'est quoi le modèle économique qu'il faut mettre en place un peu partout, et puis qu'on va vendre un peu à tous les territoires, et puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, on a des gros effets de mode. Donc là, en ce moment, effectivement, hein, c'est les métropoles. Métropole, 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 encore une fois, enfin, tous les chiffres qu'on a brassés, okay, mais il y a des territoires non métropolitains qui marchent très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est le modèle. On impulse ça, on fait de la dépense publique là-dessus, on évalue assez peu, très peu, voire pas du tout, les politiques publiques qui sont mises en place. On va s'apercevoir dans quelques années, bah, mince, ça ne marche pas, on a toujours du chômage, on a toujours des problèmes à traiter, ce que vous avez mentionné, par exemple, sur les entreprises éclatées et sur comment on fait pour travailler autrement. C'est évident qu'il y a des enjeux forts. On ne traite pas trop ça, puis on va passer à un nouvel effet de mode avec une nouvelle politique publique. Ça a un côté, qui, moi, en tant que chercheur, me désespère un peu, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de ça. On n'arrive pas à sortir de ça, pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des vrais... Je ne sais pas. Alors après, la réforme, on peut aussi la voir comme des choix rationnels sur le plan politique. Quoi, hein. Valls, Hollande voulait faire un coup politique qui peut-être sera payant, je ne sais pas. Mais sur le fond, c'est clair que la façon dont ça a été fait, enfin, il n'y a pas de rationalité. Enfin, voilà, c'est évident. La seule chose, peut-être, je reviendrai sur ce que disait Olivier Coussy, c'est clair qu'il y a cette idée-là. Il faut faire des économies. Et que je pense que, par exemple, pour les universités, une partie du truc, c'était, il y a 80 universités, c'est trop compliqué à gérer. Nous, au ministère, si on a 15 ou 20 interlocuteurs, ça nous va. Et on va faire des économies. Je pense qu'à la limite, donc il y a une rationalité de gestionnaire, on va dire. À mon avis, les coûts derrière vont être élevés parce qu'on s'aperçoit que c'est des entités très compliquées à gérer. Très compliquées à gérer. Donc voilà, enfin, quelques mots un peu dans le désordre, mais alors... Peut-être vous allez tous penser qu'on a des discours un peu désespérés sur cette. Il y a un petit côté rassurant, c'est que heureusement peut-être les politiques n'ont pas autant de pouvoir qu'ils l'imaginent. Et c'est pas parce que Alain Rousset à la tête de la future grande région va se dire que tout l'avenir économique de la grande région ce sera à Bordeaux que ça va se passer comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a heureusement des processus économiques. Qui produisent aussi un petit peu des... C'est pas parce que certains disent depuis 20 ans que de toute façon, en dehors de Paris, point de salut possible, que tout se concentre à Paris. Je suis désolé, la dynamique sur Paris n'est pas si bonne que ça relativement à celle d'autres territoires. Donc voilà, peut-être petit mot d'espoir. Les politiques ont moins de pouvoir qu'ils ne pensent.
Un économiste qui a de l'espoir, ça se note. Quelqu'un veut intervenir, alors soit à la tribune, soit dans la salle. Est-ce que il y a des questions ou des observations, Dominique?
Oui, dans ce que vous avez dit, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette notion de frontière. Et je dirais que Jean-Pierre, dès le début, a aussi un petit peu évoqué cette question, et c'est quelque chose qui nous bloque totalement. En anglais, quand on utilise le mot frontière, on a deux possibilités. On a le mot border pour la frontière ligne et on a le mot frontière que les internationalistes évoquent comme frontière zone. Et en effet, je crois qu'une des grandes difficultés est, pour moi, dans le discours de Manuel Valls du 8 avril, il n'y avait qu'une seule chose d'intéressante, c'était lorsqu'il avait évoqué les bassins de vie. Parce que les bassins de vie, ce sont des choses qui cassent les limites administratives. Or, on ne sait absolument pas travailler en dehors de nos limites administratives. Or, les limites administratives, elles n'obéissent pas aux réalités économiques, aux réalités humaines, aux réalités sociales. Je suis peut-être sensible à ça parce que je viens d'un territoire qui est très marginal même dans la région Poitou-Charentes, et où finalement on se sent très proche du département ou de la région qui est à 10 ou 15 kilomètres, ouais, mais pas moyen de travailler avec. Et je pense que là, dans ce que vous avez évoqué sur les zones frontalières, je crois qu'à l'intérieur de la France, on a aussi nos frontières et ce sont des obstacles quasi insurmontables.
Oui, ils sont tout à fait d'accord. Enfin, c'est une des vraies problématiques. Pour le redire autrement, effectivement, parce que était posée la question, c'est quoi un territoire, etc. C'est quoi le territoire pertinent? Enfin, moi, ma réponse, c'est toujours, il n'y a pas de territoire pertinent. Ça dépend du problème qu'on évoque, du sujet qu'on a traité. Et c'est clair que si le sujet, c'est comment faire mieux fonctionner les universités, ou si c'est comment assurer plus de création d'entreprises, ou des choses comme ça, à chaque fois, le territoire pertinent risque d'être différent. Donc ça plaide pour dire quoi? Effectivement, il faut aller vers des logiques de... Déjà, travailler sur des sujets, peut-être de manière... Et puis, réfléchir à chaque fois avec qui on a intérêt à travailler comme autre collectivité, c'est quoi le territoire, et puis lancer des logiques de projet, de coopération interterritoriale. Ça, c'est en France, c'est ultra compliqué. Parce que, je suis un peu démuni. Peut-être des gens en sciences politiques auraient des réponses plus pertinentes que ça. J'ai l'impression que les politiques sont en charge de leur petit périmètre, de leur petit lieu de pouvoir, et que travailler avec les autres à côté, oulala, ça leur va pas. Parce qu'il y a justement aussi cette question. Et c'est peut-être de pire en pire parce que cette question de concurrence territoriale, quoi. On se dit, Mais c'est sûr que la bonne démarche, c'est celle-là. J'évoquais, effectivement, ça dépasse le cas Franche-Comté, Lorraine, par rapport à l'Allemagne, Luxembourg, etc., avec des problèmes très, très spécifiques en plus. Là. Mais c'est aussi le cas en Poitou-Charentes, collaboration avec les régions voisines, etc., etc. Là, il y a une question de mode de fonctionnement du... Peut-être, ça va vous dire, mais le personnel politique a du mal à me semble, pas tous, bien sûr, je monte trop vite en généralité, mais il me semble qu'il y a une problématique là-dessus. Ouais.
Je crois effectivement qu'une des difficultés, qu'une des rigidités qui nous complique la vie, c'est la surveillance par chaque autorité publique de son pouvoir sur son territoire. Un souvenir rapide, à un moment où on discutait de pays, c'était une idée que Dominique Voynet avait lancée et qui avait conduit à un travail sur le terrain de recherche des affinités, des solidarités, ainsi de suite. En Limousin, on s'orientait dans le nord de la région vers un pays qui allait réunir un morceau de la Creuse, la Souterraine et le nord de la Haute-Vienne. Et des conseils municipaux avaient en Haute-Vienne, commençait à délibérer pour dire qu'il souhaitait se rattacher à ce grand pays interdépartemental. Et le conseil général de Haute-Vienne a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tentative d'évasion, on va y mettre bon ordre. Alors je ne sais pas quelle était la nature du dialogue, mais je sais que les conseils municipaux qui avaient délibéré pour le grand pays interdépartemental ont repris une nouvelle délibération pour dire que ce n'était pas ça qu'ils voulaient, qu'ils allaient rester dans le giron de la Haute-Vienne. Et anecdote sur la Corrèze a dit les pays, c'est une bonne idée. Nous allons au Conseil général prendre une délibération fixant le nombre des pays et disant que chacun d'eux sera constitué d'un nombre entier de cantons. voilà concrètement comment, quand on veut bouger le système de répartition du pouvoir sur le territoire, le type de difficultés qu'on rencontre.
Oui, Jean Renaud. Dans mes dernières activités, j'ai été président du conseil de développement de Grand Poitiers. Et j'y ai appris beaucoup de choses, même si c'était un peu tard vu mon âge. Mais ce que je voulais dire, ça rejoint ce que vous venez de dire à l'instant. Quand on a voulu... Alors, c'est une assemblée de citoyens qui essaie de réfléchir aux problèmes qu'ils ont. Hein, c'est pas les grandes théories, c'est à partir de notre vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle une expertise d'usage qu'on essaie de développer. Et quand on a parlé de la mobilité, il y a déjà des petites choses, mais qui tombent sous le sens, mais qui sont très difficiles. Pour en convaincre les élus, c'est pas toujours facile. C'est quand on a parlé de la mobilité, on l'a parlé au niveau départemental. C'est-à-dire, on était conseil de développement de Grand Poitiers, mais on s'est très très vite associé à tous les autres conseils de développement, parce que ce qui posait problème de mobilité sur Poitiers, c'était ceux qui venaient de l'extérieur. Donc si vous n'en discutez pas avec eux, comment pouvez-vous régler le problème ? Donc c'est un tout petit exemple, mais c'est vrai que si on, et c'est ce qui m'a frappé dans vos propos, si on ne part pas de ce que vivent aussi les habitants, moi je ne vois pas comment on va pouvoir régler les problèmes. Et cette réforme, quand je vous écoute, elle ne règle en rien tous les problèmes auxquels on est confrontés. C'est-à-dire que vous avez tous dit, vous dites on est pessimiste. Non, vous n'êtes pas pessimiste, c'est tout simplement que c'est une réforme qui tombe à côté. Si, il y a ce que tu as dit, Olivier, c'est sur la gestion, alors ça, la grande préoccupation. Mais autrement, les vrais problèmes, c'est... Pendant un moment, on a travaillé sur les savoirs. Bon, le problème, c'est comment on arrive à former tout le monde, pas que dans les universités. Yves était présent, il le sait. C'était un peu comment on arrive à transformer nos territoires en territoires apprenants. Hein, bon, c'était une autre démarche. Et là, il n'y avait pas la bonne université, la mauvaise école ou je ne sais quoi. Non, c'était comment on fait progresser tout le monde. Mais on n'est jamais dans cette logique-là. Il y a le vieillissement de la population. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été aussi nombreux à vieillir. Ça va poser des problèmes, ça. Mais quelle est la structure? Quel est le territoire? Qui réfléchit là-dessus? On a l'impression que c'est complètement étranger à tout le monde. L'alimentation, c'est pareil. L'alimentation de proximité, alors ça, personne, tout le monde s'en fout. On continue toujours à avoir une agriculture qui est complètement à côté des besoins réels d'une population. Et c'est vrai que moi, ce qui vraiment, je vous dis, m'étonne, et j'aimerais votre réaction là-dessus, c'est comment on va traiter les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Sinon, il ne faut pas s'étonner après qu'on n'ait plus que 50% de gens qui votent. Ils ont raison, en plus, les gens, de ne pas aller voter. Hein, et parce que à quoi ça sert? Leurs problèmes ne sont jamais pris en compte.
C'est peut-être un peu brutal, mais...
Oui, mais je ne voudrais pas qu'on aille se jeter dans le Clin au sortir de cette réunion. et je voudrais dire, après tout ce que j'ai raconté déjà, qu'il y a des cas où même des élus territoriaux, donc des personnes, des responsables politiques, peuvent travailler ensemble. À un moment, c'est posé pour trois régions, qui étaient la région Centre, la région Limousin et la région Midi-Pyrénées, la question de la liaison ferroviaire entre Paris et Toulouse. Et lorsque le temps de l'illusion du TGV a été terminé, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose sur cette ligne. Les trois régions se sont vues, ont vu le ministre de l'époque, et se sont mises d'accord sur un programme de travaux, un calendrier et un financement. Donc tout était bouclé. Et les délibérations étaient prises, les premiers contrats étaient passés. C'est donc, me semble-t-il, un bon exemple d'une collaboration entre trois institutions qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, mais qui avaient ce problème à régler ensemble, qui se sont vus, qui en ont parlé et qui ont trouvé une solution. Ça ne s'est jamais fait parce qu'un jour, un Premier ministre a dit « ce projet est absurde ». D'ailleurs, j'en ai parlé avec Madame Chirac, et ce serait bien mieux si on faisait une ligne TGV entre Poitiers et Limoges. Voilà comment notre projet interrégional a vu son existence se terminer.
Sur ce débat, moi, ce qui me préoccupe le plus dans mon expérience affreuse d'Européens convaincus, c'est qu'on parle quasiment essentiellement de la représentation politique et élue. Or, quand on regarde les autres systèmes, je dirais un concept qui est... Il y avait un professeur d'allemand qui m'avait dit un jour que c'était un concept barbare pour les Français, c'est le concept de collégialité. C'est dire un concept de partage. L'intelligence est partagée. C'est quelque chose de très difficile dans la culture française, parce que l'intelligence est hiérarchisée dans la culture française. Et donc, c'est pas forcément... La réponse citoyenne, faire avec les citoyens, c'est pas simplement que les élus. C'est, si le système social est aussi tendu, tout en étant un système cohérent de cohésion sociale très important par la protection sociale, et qui, à mon avis, est derrière cette réforme. C'est le grand problème... Si on a beaucoup de cynisme quand on regarde ce qui se passe, c'est de dire qu'il faut accepter que l'égalité ne soit plus un élément, alors c'est déjà plus un élément de l'égalité sociale, mais que l'égalité territoriale ou les autres égalités ne soient plus un élément la compétitivité mondiale ne nous permet plus d'assurer. Moi, je l'ai entendu par Barroso un jour, c'était très très clair dans l'expert. Alors, il n'a pas dit ça publiquement, c'était dans ce qu'on appelle un sommet tripartite européen, mais c'est. Ces éléments-là, ça demande une acceptation d'une intelligence collective. Et je pense que quand on n'adhère pas de famille aujourd'hui où la politique est très difficile, si on veut parler de choses qui rejoignent, c'est parler de sécurité alimentaire, d'environnement, de santé publique, d'un certain nombre de choses qui nous entourent et qui sont extrêmement importantes, qu'on considère encore comme ne faisant pas partie de l'économie et des besoins fondamentaux d'organisation de l'économie. C'est-à-dire, on considère encore... Et l'économie... Et après, il y a la représentation politique qui est en face pour aider l'économie. Non, l'interpénétration de ces éléments, alors qu'ils donnent des mouvements, on peut penser, ailleurs, dans d'autres pays, comme en Espagne, mais c'est une expression. L'expression citoyenne, elle prendra d'autres formes. Moi, j'ai toujours cru beaucoup à ce qu'on appelle les droits de troisième génération, c'est-à-dire des droits citoyens qui ne sont pas simplement... Je sais bien que le système démocratique, comme dirait Churchill, le meilleur, c'est le suffrage universel, mais il n'empêche que la citoyenneté, ou ce qu'appellent les Scandinaves la collégialité, alors qu'elle y est... J'ai beaucoup réfléchi à ça à Bruxelles, quand les Scandinaves ont adhéré à l'Union européenne. Je dirais que l'élément de culture protestante, pour aller vite, est un élément non négligeable dans cette façon d'aborder les problèmes. Mais c'est des choses qui sont extrêmement difficiles dans un pays. Par exemple, dans un projet d'entreprise en Allemagne ou même en Suède, le partage du projet sera total. C'est-à-dire, si un ouvrier ou un employé dit « ça ne va pas marcher à cet endroit-là », et j'ai encore eu l'exemple, ma fille travaille dans un groupe multinational, je peux vous dire, j'ai encore eu l'exemple la semaine dernière, on va considérer là-bas qu'il a raison et donc il faut regarder. En France, si vous dites, quand un dirigeant d'entreprise, même un petit dirigeant d'entreprise, parce que c'est la même culture, dit on va faire un projet comme ça, si un des salariés, qu'il soit cadre ou ouvrier, dit c'est pas comme ça que ça va marcher, il est tout de suite considéré qu'il est contre le projet. C'est la réaction, mais c'est une réaction viscérale. C'est-à-dire, moi, j'ai fait tellement d'expériences sur ce domaine-là, et c'est pas simple. C'est un élément de l'organisation de notre culture qui n'est pas simple à régler. Parce que ça conduit à accepter l'idée que la délégation est un élément structurant de l'organisation de la démocratie. Or, la délégation est un élément structurant, mais elle doit aussi s'élargir aujourd'hui. On doit accepter que le citoyen soit un élément d'intervention. Et c'est le débat avec le patronat est un débat fondamental là-dessus. C'est le refus de dire il faut essayer de partager. Parce que, en disant, le petit patronat dit il ne faut pas que les syndicats puissent intervenir, il faut pas. Mais les syndicats sont un élément d'efficacité sociale dans les pays scandinaves. Les pays les plus performants au niveau de l'OCDE sont les pays où la représentation syndicale est la plus forte. Donc c'est quand même un problème d'organisation des rapports sociaux. Ce n'est pas simplement un problème d'organisation politique, c'est ce que je voulais dire.
Peut-être qu'on fait un tout petit peu par rapport à ça, parce que c'est pareil. Moi, il me semble quand même sur les territoires, heureusement, il y a plein de choses intéressantes, enfin il y a quand même plein de choses qui émergent intéressantes, etc. Donc là, on a un discours peut-être un peu calamiteux. Je crois que c'est le discours calamiteux consiste à dire si on croit que c'est en faisant cette réforme territoriale que c'est bon, on va régler tous les problèmes, qu'on va faire de la croissance, créer des richesses, et puis on donnera des sous aux pauvres qui habitent dans l'arrière-pays, comme disait Guillaume tout à l'heure. ça ne va pas marcher comme ça. Ça va planter. Mais heureusement, à côté de ça, on voit bien, sur tout un ensemble de territoires, des initiatives intéressantes qui font avancer les choses, mais qui sont très peu médiatisées, etc., et qu'on ne va pas ériger en modèle. Hein, je crois que c'est un peu ça l'enjeu. Après, effectivement... simplement du point de vue du développement économique, moi, le leitmotiv, c'est toujours de dire la problématique essentielle en France du point de vue économique, c'est quand même le chômage de masse, qui est avant tout un problème de chômage des personnes peu qualifiées, très très massivement. Et donc l'enjeu énorme, il est là. Et c'est clair que là, il y a des choses à faire à des échelles territoriales assez fines. En fait, les collectivités font beaucoup de choses en matière de développement économique. Et ce qu'elles oublient, c'est que le champ d'intérêt, enfin, ce qui reste très localisé, c'est les marchés du travail, quoi. C'est là où elles pourraient faire beaucoup de choses. Et là, il y a des progrès à faire, enfin, sur ce que font soit les collectivités territoriales, soit Pôle emploi, etc. Je crois que l'enjeu prioritaire est là, quoi.
Oui, je voudrais rajouter un deuxième enjeu sur lequel les collectivités ont malgré tout un poids déterminant. C'est que ce qui est au cœur des difficultés réelles du pays, c'est en particulier la bulle immobilière. C'est-à-dire qu'on est un pays où les prix, enfin, on est un des pays où les prix de l'immobilier ont plus augmenté depuis 15 ans. Ils ont été multipliés par 2,5 depuis 1995. C'est plus qu'aux États-Unis, nettement plus qu'aux États-Unis. C'est un petit peu moins qu'au Royaume-Uni. Ils sont un peu dans la même situation que nous, mais c'est aussi plus aujourd'hui qu'en Espagne, parce que les prix ont baissé en Espagne, etc., etc. On est un des pays où ça s'est produit de manière la plus massive. Et c'est une des différences essentielles avec l'Allemagne. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier n'ont pas bougé en Allemagne depuis 15 ans, et c'est un des facteurs majeurs des écarts de coût du travail, de compétitivité, etc., etc. Donc, d'autre part, on n'est pas du tout un pays de cigales, on est un pays au contraire de fourmis, c'est-à-dire que les gens parallèlement, ils épargnent comme des fous. On est un des pays qui épargne le plus au monde. Le problème, c'est que on place notre épargne dans un truc qui sert strictement à rien. C'est la rente foncière, c'est l'immobilier, c'est la pierre, au lieu de le mettre, cette épargne massive, dans de l'équipement productif et dans des entreprises. Donc, si on est capable de régler ça, on est capable de régler une partie très substantielle de nos problèmes économiques actuels. Et là-dessus, malgré tout, les collectivités locales ont un poids potentiellement déterminant. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est qu'elles ne l'ont pas utilisé, en tout cas pas toujours à bon escient, notamment parce que la compétence d'urbanisme est restée dans les mains des communes et que les communes ont eu des politiques, je dirais, malthusiennes, d'ailleurs, pour pas développer la densité chez eux. Et donc c'est ça qui a déclenché en particulier l'étalement urbain, donc, parce qu'on renvoyait les gens toujours plus loin des centres au lieu de densifier les zones qui étaient déjà occupées. Ça, c'est un des points, malgré tout, sur lesquels, dans les réformes actuelles, il y a quelques réformes qui sont importantes et qui sont menées. Donc, transférer la compétence urbanisme au niveau intercommunal. Alors, dans la réforme qui était votée l'an dernier, il y avait encore des possibilités d'échappatoire trop importantes. Enfin, dans la loi Allure, il y avait encore des échappatoires trop importants qui étaient laissés pour les communes qui ne voulaient pas jouer ce jeu-là. Je crois qu'un des points qui est, à mon avis, essentiel dans la loi NOTRe, qui est en discussion à l'heure actuelle, c'est de rendre ça encore plus compliqué, d'éviter de transférer le plan d'urbanisme au niveau intercommunal. Et à mon avis, derrière ça, il y a un enjeu absolument central pour l'économie du pays, qui est de dégonfler la bulle immobilière.
On va peut-être proposer à Jean-Luc Gibou de conclure, puisqu'il faut qu'on termine quasiment dans les 5 minutes.
Oui, très rapidement, je crois que ce débat, quand même, à la fois riche et foisonnant, quand même a permis de voir un certain nombre de choses. Foisonnant, ouais. Et bon, d'autant qu'on est quand même ici, dans notre contexte local, au cœur quand même de ce que pourrait être une réforme, je dirais pas ratée, mais quand même problématique, notamment la fusion de 3 régions, même si derrière, on dit qu'on va à nouveau avoir une nouvelle grande région de la taille de l'Autriche, ça c'est une autre affaire. Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles quand même on pourrait continuer un peu à travailler. Je pense qu'ils sont quand même des questions de fond sur lesquelles quand même toute mutation de cette nature pose. D'une part quand même la production de nouvelles identités collectives identités qui ne soient pas uniquement des identités fondées sur l'existence d'une nouvelle institution, très large, très loin, mais aussi avec l'existence d'identités intermédiaires qui soient aussi des lieux de pouvoir. Et là-dessus, quand même, la connaissance des, à la fois des contextes territoriaux et des territoires eux-mêmes et de leurs territoires sont quand même une donnée tout à fait importante pour pouvoir construire ces choses-là. Mais ça se construit dans le temps. Il y a déjà des choses qui se font, donc il faut les faire connaître, parce que je crois que ça sera une chose importante dans le débat et dans la construction de ces identités. Ça me semble tout à fait important. Deuxième élément, c'est quand même celui aussi de donner quand même l'efficacité économique et sociale des territoires tels qu'ils vont se construire, mais aussi tels qu'ils sont dans leur diversité. Bon, c'est vrai que cette réforme pose quand même toujours le problème de la dépense publique par rapport à ça, pose problème aussi des centres de plus ou moins performants économiquement qu'elle intègre, mais également aussi quand même la compétitivité des entreprises qui y sont à l'intérieur et de comment en fait l'accompagner et leur permettre de faire face à quand même un certain nombre de mutations. Ça, c'est une chose qu'on a quand même un petit peu regardée, mais qui devra être entrevue. Et là, tous les acteurs, quand même, doivent peser de leur poids pour ça. Puis, dernier point, quand même, c'est le modèle démocratique à construire. Alors, si modèle il y a, cher Olivier. Hein. Mais bon, là, dans la construction de la réforme, je pense que ça n'a pas été un modèle. Mais il y a peut-être des choses quand même à regarder. Ça n'a pas été un modèle, pour le moins qu'on puisse dire. Mais il y a des choses à voir quand même. Ça a permis quand même, y compris dans le contexte dans lequel on est, avec les montées d'abstention, etc., de voir quand même des exigences citoyennes de plus en plus fortes et sur lesquelles, effectivement, on peut quand même s'appuyer pour pouvoir essayer d'avoir quand même une réforme qui réponde à certains besoins et à certaines attentes. Je voulais remercier tout le monde et remercier aussi Mendès d'avoir l'espace Mendès France d'avoir organisé cette réunion. Hein? Comment?
Non, t'avais oublié l'espace.
Mendès. Mais Mendès France, tu sais que Mendès France, la famille Mendès France, ils sont arrivés à Bordeaux d'abord. Tu vois. Et par ailleurs, je voulais vous rappeler que le dossier que Lazer avait élaboré, bon ben il y en a quand même un certain nombre, vous pouvez en prendre, et en remerciant à tout le monde, bon travail dans les prochaines semaines.
J'ai aussi quelques exemplaires d'alternatives économiques s'il y en a qui veulent découvrir.